Europe 1.
Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voie est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Aujourd'hui, je reçois un grand écrivain, mais qui écrit court. C'est le virtuose de la microfiction. Visite de bibliothèque, bien sûr. Nous partirons chez un ministre, tiens, Clément Beaune. Ensuite, je réunis toute la clique de chroniqueurs de l'émission pour plein d'idées de lecture. Mais d'abord, c'est l'invité, évidemment. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. Si vous écoutez La Voix est libre, vous le connaissez forcément, c'est le maître de la microfiction. On lui doit La patience des buffles sous la pluie, Le poids du monde est amour, Seul entouré de chiens qui mordent, notamment puisqu'il revient, enfin, avec Partout les autres, une nouvelle cargaison de textes courts, rarement plus de 2 pages, encore que dans celui-ci il y en a des plus longs, mais qui racontent à chaque fois toute une histoire. Ce sont des instantanés, des moments, c'est ou drôle, ou émouvant, ou poétique. Vous quittez un texte à regret, mais vous plongez immédiatement dans le suivant qui est encore mieux. Mesdames, messieurs, David Thomas. Bonjour David Thomas.
Bonjour.
Le meilleur écrivain, on va y revenir. Merci d'être de retour avec donc Partout les autres aux éditions de l'Olivier. C'est votre nouveau livre. J'ai cité les titres des précédents recueils. Parfois, c'est le titre d'une des mini-nouvelles. Parfois, c'est une citation d'un grand écrivain. Comment vous choisissez les titres? Ça vient avant? Ça vient après?
Ça dépend. En fait, celui-là, il m'est un peu tombé dessus. Et je l'ai gardé parce que je le trouve assez synthétique sur ce que je fais depuis presque 15 ans maintenant. Donc c'est pour ça que j'ai... Il synthétise... Lui, là, c'est pas le titre d'un texte. Mais ça synthétise bien tout ce que je fais avec mes recueils depuis 7 recueils. Donc j'ai gardé. Mais sinon... Le titre, c'est assez compliqué, quoi. Il faut l'avoir tout de suite. Quand on cherche un titre, en général, c'est pas bon.
Mais c'est ce que j'allais dire, ça aurait pu être le titre, ou ce sera peut-être le titre des œuvres complètes à la Pléiade ou ailleurs. C'est-à-dire que...
oui, évidemment.
Non, mais c'est bien Partout les autres, parce que ça peut à la fois faire référence à L'enfer, c'est les autres, mais aussi, justement, pas forcément. C'est-à-dire, vous n'êtes pas misanthrope non plus. C'est les autres qui vous intéressent.
Ah ben, c'est-à-dire que oui, vous avez bien vu le double sens de ce titre, parce que la première lecture, elle peut effectivement renvoyer au fait qu'on est entouré, cerné par les cons.
Partout dans trop, quoi.
Un peu. Mais en fait, c'est pas que ça du tout. C'est Partout les autres, ça veut dire aussi qu'on n'a pas le choix que de composer avec les autres. Ouais. Et qu'on est tous, on se construit avec, pour, par, contre les autres, et sans eux, je ne sais plus qui écrivait « Aucun homme n'est une île », et par tous les autres, ça veut dire on n'a pas le choix, quoi. Il faut faire avec, et donc il faut composer.
Et puis il y avait un autre titre, c'était « Un homme à sa fenêtre », je crois, et vous voyez bien observer les gens à la fenêtre. Puis c'est ça votre travail, en fait, c'est de regarder les autres. Vous passez votre temps à vous mettre à leur place.
Oui, moi, je sais pas, j'aime bien attraper, quoi. Moi, oui, j'aime bien, je suis un peu... je devrais peut-être pas dire ça, moi, je suis très voyeur, moi. Moi, j'adore me planquer et regarder les autres.
On le sait quand on vous lit.
Oui, mais j'aime bien regarder. Il y avait un texte dans La patience des buffles d'un type qui s'appelait Voisine, ou je ne sais plus quoi. Enfin, je me souviens plus du titre. Et un type qui regardait sa voisine planquer derrière ses rideaux. Et tout ça. Et j'adore, c'est pour ça qu'un homme à sa fenêtre aussi, c'est cohérent. Enfin, ça a du sens. Moi, j'aime bien attraper des petits trucs là, chez les gens qui leur échappent. En fait, ce qui me plaît, c'est de voir ce qui échappe aux gens.
Je demandais ça aussi pour le titre, parce que parfois dans les recueils de nouvelles, il y a des grands thèmes qui rassemblent toutes les histoires. C'était le cas d'ailleurs pour vous dans Le poids du monde est amour.
Oui, c'est le seul
que
où il y avait un thème.
Oui. Mais en général, chez vous, le thème, c'est la vie. C'est très général, la vie des gens. Est-ce que c'est parce que vous échouez à rester sur un seul thème? Vous êtes déjà dit, allez, cette fois, ce sera un recueil sur je sais pas quoi. Et puis, en fait, vous partez sur autre chose, ou est-ce que vous essayez même pas?
Non, mais en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Pourquoi j'ai fait un recueil avec sur un thème, c'est parce que j'avais pas d'éditeur à l'époque. Je m'étais fait remercier très poliment, gentiment de mon dernier éditeur, et je n'avais plus d'éditeur. Et je me suis dit, pour retrouver un éditeur, ça sera peut-être plus simple si je propose un recueil avec un thème.
Ah ouais, ouais.
Alors j'ai fait ce recueil-là. Et après, quand j'ai retrouvé un éditeur, pour le recueil d'après, j'ai demandé, est-ce que tu veux que je fasse un thème ? Il m'a dit, non, je m'en fous, c'est pas grave, pas de thème. Et puis ensuite, je suis arrivé à l'Olivier par Jeanne Grange, qui m'avait fait venir à l'Olivier. Et pareil, je lui ai demandé, tu veux un thème ? Non, pas de thème. Donc voilà, c'est la seule fois, c'était pour le poids du monde. Et comme j'ai absolument aucune imagination, j'ai choisi comme thème le parcours de l'amour, du célibat au célibat.
Il faut dire un mot de ce recueil, parce que ça vous va quand même bien, les thèmes avec celui-là. Par exemple, c'était que des histoires. Donc, homme, femme, homo, hétéro, ça changeait. Alors, que des histoires de célibataires, puis ensuite, que des histoires de rencontres, ensuite, que des histoires au cœur du couple, et puis ensuite, que des histoires de rupture, et puis finalement,
et
des
puis
histoires de célibataires.
On retourne à boucle, on retourne au célibat. Voilà, c'est le parcours, quoi, qu'on a tous vécu, quoi, du célibat au célibat, comme une boucle, quoi, avec je m'étais amusé parce que j'avais fait un prologue et un épilogue, et l'épilogue était le palindrome du prologue, c'est le même texte mais avec les phrases inversées, enfin bon.
Mais c'est voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce recueil, bon, chaque histoire, la plupart des histoires sont géniales, mais c'est vrai que c'était construit d'une manière où vous épuisiez justement le thème de l'amour. C'est-à-dire qu'il y a, je pense qu'il y a quasiment tous les cas de figure dans ce recueil.
Peut-être pas. Ce serait gentil de me dire ça, mais je ne sais pas, si je l'ai épuisé. Je crois que d'ailleurs c'est inépuisable. Je l'ai fait avec mon filtre à moi, avec mon regard à moi, voilà. Mais vous savez, j'avais pas non plus. J'ai pas beaucoup d'intention moi hein, quand je commence un recueil. Je ne sais pas où je vais. J'écris et puis après je me retourne et je vois ce que j'ai et je compose avec ce que j'ai. Donc pareil pour Partout les autres. Moi il y a moins de textes que dans les précédents dans celui-là parce qu'effectivement il y a plus de textes plus longs. Mais voilà, là il fait 60 textes, je crois. Bon, pour faire ça, j'ai dû en écrire plus de 100. Et puis une fois que j'ai mes 100 textes, je me dis ça y est, j'ai suffisamment pour faire un recueil. Et puis bon, voilà, je compose le livre.
Ben justement, je voulais vous en parler de ça, parce que d'habitude, c'est pas plus de 3 pages.
Oui.
Et là, il y en a des textes qui font une dizaine de pages,
oui.
pas beaucoup,
ouais.
Mais on est surpris. Hein, le premier, on se dit, dis donc, qu'est-ce qui se passe ?
Oui,
qu'est-ce
oui
qui s'est
je
passé
suis désolé.
Vous avez une tentation de revenir au roman ?
Ça doit être troublant pour ceux qui
Non, mais c'est vrai qu'on a un peu une horloge.
Je ne sais pas ce qui me prend
dit.
De faire des nouvelles, des vraies nouvelles de 10-15 pages, c'est... Il faut que je me ressaisisse. Non, mais je ne sais pas, parce que l'histoire que j'ai, voilà. Moi, je ne force pas. Hein. C'est-à-dire que si ça tient en 5 lignes, j'arrête en 5 lignes. S'il me faut 15 pages, je fais 15 pages. Voilà, là, effectivement, il y a quelques textes, ils sont 4 ou 5, qui font plus de 10 pages. Mais en règle générale, ça reste encore entre la demi-page et les 2 pages, hein, la plupart du temps.
Quoi. Et votre éditrice, elle ne dit pas, disons... Mais elle a
non,
dit microfiction, mon vieux.
Mais non, elle a tout pris. Non, enfin, c'est pas vrai, elle n'a pas tout pris parce qu'elle n'a pas sélectionné, mais elle m'a fait des propositions. Ah. Elle m'a dit ça, je trouve ça moins bien, ça c'est mieux. Enfin, vous voyez, donc.
Alors, elles sont superbes aussi, hein, les nouvelles plus longues. Mais ce qui est bien avec vous, c'est que je peux à chaque fois lire carrément toute une histoire en entier, et notamment celle-là qui s'appelle Réflexe. Chaque fois que je marche avec mon petit garçon, comme un réflexe, sa main vient se lever dans la mienne. Quelles que soient nos humeurs, nos contrariétés, le temps qu'il fait au-dessus de nos têtes ou en nous, nous avançons ainsi côte à côte, main enlacée. Ce geste discret est le plus grand bonheur de ma vie. Un jour, il ne le fera plus. C'est du pur David Thomas. C'est-à-dire que c'est beau, c'est poétique, puis tout à coup, à la fin, tac, un petit « ah oui ».
Ben, c'est ce qui justifie le texte.
Ben oui.
Il faut... Je peux pas me contenter de juste dire que... c'est un geste qui me remplit de bonheur. Moi, je trouve que ça suffit pas. Donc, ce qui justifie le texte, c'est juste la dernière phrase. C'est dire que le père a peur, il redoute ce moment.
Et
il sait que ça viendra et il redoute ce moment. Voilà.
On connaît tous ça, enfin, tous ceux qui ont des enfants. On se retrouve dans un instant.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec David Thomas et ses micro-fictions aux éditions de l'Olivier avec son nouveau recueil qui s'appelle par tous les autres et qui commence par une épigraphe que je vous lis. « En ville, c'est toi qui fais la loi. Ici, c'est moi. » Signé John Rambo. Pourquoi vous mettez cette phrase de Rambo en épigraphe ?
Je mets cette phrase de Rambo pour deux raisons. D'abord, parce que je trouve ça amusant de mettre une phrase d'un personnage de fiction plutôt que d'un écrivain. Et encore plus amusant que ce soit de John Rambo, ouais, qui n'est pas non plus ce qu'on peut appeler le personnage le plus littéraire, vous voyez. Ça, j'aime bien, ça m'amuse, c'est un clin d'œil. Et puis, en fait, cette phrase qui est ce truc qui un peu paraît comme une boutade aussi, a du sens pour moi. Mm-hmm. Parce que je suis un écrivain qui, comme vous l'avez précisé, moi je ne fais pas des romans, enfin j'en ai fait deux, mais je fais surtout de la micro-nouvelle, et qui est un genre qui ne rencontre pas beaucoup de lecteurs.
Pour l'instant.
Pour l'instant, voilà. Enfin, en tout cas, moi les choses ne sont pas forcément très faciles. Et c'est très difficile de s'accrocher à sa propre voix. Et on est tenté de faire un peu comme font tous les autres. Si vous voulez, c'est comme de l'athlétisme, une discipline d'athlétisme. Moi, je lance le javelot alors que tout le monde court le 100 mètres, parce que le 100 mètres, c'est la discipline la plus noble. Et que les spectateurs, c'est le 100 mètres qu'ils veulent voir. C'est pas le lanceur de javelot. Ils s'en foutent un peu du lanceur de javelot, vous voyez. Mmh. On ne reste pas réveillé jusqu'à 3h du matin quand il y a les Jeux Olympiques pour regarder le type qui lance le javelot. Et donc, et c'est dur hein, de se dire, ne fais pas comme on veut que ça soit fait en ville, quoi. T'es sur ton terrain, reste sur ton terrain. Et sur ton terrain, c'est toi qui fais la loi, c'est toi qui choisis ce que tu dois écrire. On est toujours tenté, quand on écrit, de se dire ah, « mais est-ce que je ne ferais pas... Non, je ne peux pas écrire ça » ou « voyez, il faudrait peut-être mieux... » C'est une tentation. Et surtout, je pense que cette tentation, on l'a surtout... Bon, quand vous vendez 10, 20, 30 000, c'est plus facile d'être à l'aise, vous voyez, dans son écriture. Mais quand ce n'est pas forcément le cas, après, bon, moi, j'ai des lecteurs, hein, je ne vais pas non plus chouiner... J'ai eu des prix, j'ai quand même des livres qui... Je suis publié, mes livres sont en poche. Donc, par rapport à beaucoup de gens, j'ai de la chance. Mais quand ça fait 15 ans que vous faites ça, à un moment, vous aimeriez bien que, vous voyez, que ça se développe un peu. Enfin, bon. Et donc, c'est aussi pour ça que je me dis ça à moi. Et je dis ça souvent... moi, j'anime des ateliers d'écriture. Mmh. Je dis ça souvent aux participants qui s'imaginent qu'il faut écrire comme, qu'il faut faire. Et je leur dis, mais non, mais tu sais, c'est toi le patron. Sur tes textes, c'est toi qui fais la loi, c'est pas les autres. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis cette phrase.
Et alors, à l'inverse, parce que, parlons-en justement, c'est vrai que vous avez une communauté de lecteurs quand même, il y a une sorte de confrérie des lecteurs de David Thomas. Ouais. C'est-à-dire, quand moi je vois un David Thomas dans la bibliothèque de quelqu'un que je connais pas, je sais qu'on va être amis. Il y a un truc comme ça de proximité. Et puis, vos lecteurs vous aiment aussi pour ces textes courts. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Si vous vous mettiez à faire du roman, peut-être qu'ils seraient un peu désarçonnés. Ou peut-être que vous auriez l'impression que vous ne pouvez pas sortir maintenant du texte court parce que vous avez cette communauté de lecteurs-là.
Bon, oui, c'est assez vrai ce que vous dites. Mais bon, j'espère être suffisamment libre pour me dire si un jour j'ai envie d'écrire un texte, un roman ou un récit, enfin je sais pas, de pas m'arrêter à ça. Je pense que je le ferai pas. Je pense que je m'autoriserai. Voilà. Si j'en ai besoin, j'écris un roman et puis si j'ai envie de continuer. Puis de toute façon, l'un n'empêche pas l'autre, on peut aussi faire. Vous savez, il y a des tas d'écrivains qui font des romans et qui, une fois, de temps en temps, une fois, font un recueil. Éléonore Clovis a fait ça, Arnaud Catherine a fait ça. Bon, je parle au-delà de Geoffrey qui a fait plusieurs recueils de microfiction, mais si vous voulez, souvent il y a des auteurs qui voilà, font une petite un petit détour par ça. Ben, moi, je peux faire l'inverse, hein. Je peux aussi faire un petit détour par un roman.
Vous pouvez ou est-ce que votre cerveau s'est tellement habitué aussi à ce format que c'est difficile pour vous d'envisager plus long ?
Je ne peux pas vous le dire parce que là, c'est vrai que ça doit faire 4 ou 5 livres que je publie des recueils. Avant, bon, mon deuxième était un roman, mon cinquième, je ne sais plus par là, était un roman. Et puis depuis, c'est vrai que j'ai fait 4 livres de suite. Donc je ne peux pas vous répondre, j'espère que non. Ah.
C'est court à lire, c'est le principe, mais est-ce qu'il est long de faire court ? Est-ce que c'est laborieux quand vous écrivez un texte comme ça, ou est-ce qu'il faut que ça jaillisse, sinon
non,
ça ne marche
non,
pas
Non, ça va vite. Je ne vais pas me la raconter ou... c'est court et c'est écrit vite. L'idée est là et il faut que je m'y mette. En revanche, il ne faut pas que je traîne trop quand l'idée est là, parce qu'après, elle s'évapore. Je l'oublie. Enfin bon. Mais si j'ai une idée, je me mets à ma table, c'est vite fait. Quoi. Voilà, c'est d'une traite. J'écris d'une traite. Alors, c'est vrai que les nouvelles qui font 15 pages, là, je ne les ai pas écrites d'une traite. Hein. Je les ai écrites peut-être en deux ou trois fois, mais en règle, la plupart, les 80% des textes qui sont de ce recueil, ils sont écrits en une fois. Voilà. Puis après, je les retravaille pas vraiment, mais je disais ça l'autre jour à quelqu'un qui me demandait, je les peigne, quoi, pour que ce soit plus...
Vous les polissez.
Oui, voilà, pour que ce soit un peu plus présentable, si c'est nécessaire. Parfois, au premier geste, ça va. Hein.
Mais est-ce que vous avez un petit carnet où vous notez vos idées, ou alors votre carnet, c'est que vous écrivez la nouvelle ?
Non, je n'ai pas de carnet. Non, non.
Et vous n'avez même pas, je ne sais pas, moi, sur votre téléphone, vous êtes dans le, je sais pas, en train de flâner ou...
Non, non, sur le téléphone, encore moins. Moi, je suis un type du... je suis encore au type du carnet ou avec les cahiers. Non, non, je me sers pas de mon téléphone pour noter mes idées, non, non.
Bah donc, il y a plein d'idées qui s'évaporent, que vous oubliez. Forcément.
Oui, non, il y en a quelques-unes, mais écoutez, alors je vais vous dire un truc, si elle s'évapore, c'est que probablement que ça ne méritait pas. Non, franchement, quand je sens qu'il y a quelque chose, j'y vais. Hein, mais aussi, il y a beaucoup de textes qui finissent à la poubelle, hein, il y a beaucoup de déchets dans ce que je fais. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, moi, pour faire un recueil de 100, j'en écris 100, 150, 160. Mmh. Alors après, ils ne sont pas tous jetés, hein. Il y a ce que j'appelle les invendus dans mon ordinateur, parce que ça peut apparaître pour le recueil d'après. Parfois, je me dis, bon, pas maintenant, pas sur ce recueil-là. Et puis après, un an ou deux après, je le lis, je me dis, mais oui, il est très bien celui-là, je vais le garder.
Il y a un petit dossier, les invendus ?
Ah oui, il y a un dossier invendu. Ah bah oui, bien sûr. Bah, il y a toujours 50, entre 35 et 50 textes dedans, oui.
Alors, il y a parfois des mises en abîme aussi, parce que vous parlez parfois des textes courts dans un texte court. Oui. Et il y en a un dans celui-ci qui se passe dans une salle d'attente de médecin. Enfin, ça ne se passe pas là-dedans d'ailleurs, mais c'est un écrivain qui écrit des textes courts. Et en fait, c'est un succès phénoménal parce que son directeur commercial a décidé de faire un business avec les salles d'attente de médecins. Et on peut attendre plus ou moins longtemps. On peut prendre tant de textes qui vont correspondre...
Ouais, voilà, c'est arrivé chez l'éditeur, et puis le directeur commercial, plutôt que de l'envoyer chez les représentants, chez les libraires, il s'est dit non, en fait, on va l'envoyer chez les médecins, les coiffeurs, les dentistes, tout ça. Et du coup, il s'est aperçu qu'au fur et à mesure, au bout de quelques années, l'évaluation du temps avait évolué. On ne parle plus de légende du dispute. Oh, bah, j'ai attendu 20 minutes chez ce dentiste. Dire, j'ai attendu 3 textes ou 2 textes. Ah, t'as du bol. Moi, la dernière fois, c'était attendu 17 textes. Enfin, voilà, bon, c'est une façon de me foutre un peu.
Ce qui est faux, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de vos textes courts qu'on relit plusieurs fois.
Ah, ben ça, je sais pas.
Par rapport à un roman, c'est aussi l'intérêt. C'est qu'un roman, c'est rare de le lire plusieurs fois, sauf si vraiment c'est un roman absolument génial. Les textes courts, moi, il y en a beaucoup que j'ai lus, mais peut-être 15 fois, 20 fois. Et donc, ça, effectivement, ça casse le chronomètre. On se retrouve dans 3 ou 4 microfictions à peu près.
La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec David Thomas pour Partout les autres, son nouveau recueil de microfictions. Aux éditions de L'Olivier, il y a un texte que j'adore où un type se googlise. C'est un truc très moderne, évidemment. Le héros de cette microfiction regarde un jour sur Google ce qu'il y a sur lui. Et bon, le drame, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, je vous ai googlisé, David Thomas. Et alors, voilà ce que vous avez une page Wikipédia, dites donc.
Oui, j'ai vu ça. Moi, ça fait pas mal d'années. Un jour, je suis beau.
Vous me dites s'il y a une erreur. David Thomas, né le 14 juin 1953 à Miami, est un chanteur, compositeur et musicien américain. Membre fondateur du groupe protopunk Rocket from the Tombs sous le pseudonyme de Crocus Behemoth, puis de Pérubu. Il a également sorti plusieurs albums solo. Avant tout chanteur, il joue également parfois du clavier, du trombone, de la guitare ainsi que d'autres instruments. Je vous rassure, c'est l'autre David Thomas.
Ouais, mais il y en a encore
vous le connaissiez
un autre. Vous savez qu'il y en a encore un autre.
J'ai vu un chirurgien.
Oui, et il y a un écrivain.
Ah oui.
Et en plus, c'est un pseudonyme. Il y a un écrivain dont j'ai oublié le nom, anglais, qui a écrit...
Qui s'appelle David Thomas.
Il s'appelle David Thomas, et qui a écrit un ou deux livres sous ce pseudonyme-là. Et du coup, j'ai fait une nouvelle là-dessus, que je n'ai pas proposée, mais la prochaine fois, je vais la mettre, cette nouvelle qui s'appelle David Thomas. d'un type qui réunit tous les David Thomas de France, parce que bon, Thomas, comme vous savez, c'est quand même après Dubois, Dupont, Bertrand, c'est le quatrième nom le plus porté en France. Donc si vous voulez se faire un nom quand on s'appelle Thomas, c'est quand même plus laborieux. Et donc, mais il y a aussi un autre écrivain.
Michel Houellebecq, Michel Thomas.
Eh bien, c'est le nom de mon père, figurez-vous. Mon père s'appelle Michel Thomas. Et Michel Houellebecq, donc...
J'ai cru que c'était Houellebecq, le nom de votre père, et que vous aviez pris le pseudonyme.
Écoutez, David Thomas, ça serait génial.
mais vous avez pensé à un pseudo, justement, si c'est le quatrième...
Non, j'ai pas...
donné en France.
Enfin, commencé à écrire, si j'ai pensé à un pseudo. Non, mais j'aurais dû.
Après tout, vous êtes fan de Jean-Paul Dubois.
Oui, bon. Oui.
Mais est-ce que vous diriez que c'est le meilleur écrivain?
Ah, non, certainement pas.
Je dis ça parce qu'il y a une nouvelle dans le recueil qui s'appelle Le meilleur écrivain, où un type fait une conférence et la modératrice, l'intervieweuse, le présente comme le meilleur écrivain. Et le héros de l'histoire, que pour un immense littéraire, mais qui regarde ça, ça l'intéresse, mais surtout pendant toute la conférence, il se dit mais comment, c'est quoi un meilleur écrivain?
Ben, le monsieur, oui, il est couvreur, donc c'est pas un intellectuel, donc il lit 4 livres par an. Hein, mais il comprend pas ce que ça veut dire être le meilleur écrivain. Parce que pour lui, il pense à Antoine Albault, qui est le champion du monde de planche à voile. Antoine Albault, il a été 25 fois champion du monde.
Donc lui, c'est le meilleur.
Bon, quand vous êtes 25 fois dans au meilleur chrono, là, vous êtes le meilleur. Là, c'est clair. La littérature, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il n'y a pas de... Bon. Alors le type, il ne comprend pas ce que ça veut dire, ça, être le meilleur écrivain. Et donc moi, je partage un peu cette opinion. C'est pour ça que Jean-Paul Dumois, c'est un écrivain que j'adore, mais jamais je dirais... je trouve que ça n'a pas de sens.
Il faut rajouter pour moi, quand
mais
on
bien
parle
sûr,
d'un
c'est
livre.
Pas, mais c'est même, enfin, meilleur, je ne sais même pas. Moi, c'est un écrivain... Comment vous expliquer ça? Quand je lis ces livres, j'ai le sentiment de rentrer à la maison. Voilà, et c'est un univers, un regard sur le monde qui me touche, qui me parle, et puis je suis très admiratif de son style. Mais Dieu merci, il y a d'autres écrivains que j'admire. Hein, mais non, oui, vous savez, c'est ça le lien quoi qu'il peut y avoir. C'est une rencontre. Hein. Moi, je pense, on parle beaucoup de ça, entre un écrivain et un lecteur, ce sont des rencontres. Et je dis ça aussi aux gens qui ont des ateliers d'écriture. Je leur dis, vous savez, votre manuscrit et un éditeur, c'est une histoire de rencontre. Il faut que la rencontre se fasse.
Oui, parce qu'il y a une nouvelle qui parle du malheur de ne pas être édité. Enfin, de ne pas réussir à être édité. Et vous avez mis longtemps à trouver un éditeur.
J'ai ramé, moi, oui. C'est pour ça que j'ai choisi un rameur pour mon premier livre. C'est loin, l'Amérique. Hein.
Non, mais il y a une souffrance pour les...
Ben, souffrance, je ne sais pas. Non, quand, peut-être non, pas. On va modérer les mots. Enfin, c'est pas une souffrance, mais c'est compliqué. Mais en même temps, vous savez, quand vous regardez l'histoire de la littérature, ils sont quand même assez nombreux à avoir un petit peu ramé avant d'être publié.
Oh, il y a plein d'histoires.
Comment ?
Il y a plein d'histoires comme
ça. Oui, c'est assez fréquent. Alors évidemment, les gens ont en tête le truc, le conte de fées. Voilà, on écrit un truc, on l'envoie tout de suite. Bon, mais la plupart du temps, on échoue une fois, deux fois, trois fois, puis après. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, à chaque fois, j'ai été reçu par des éditeurs où ils m'appelaient, où ils m'écrivaient une vraie lettre. Il y avait des encouragements, vous voyez, mais c'était pas encore pour maintenant.
Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des homos, il y a des hétéros, comme toujours dans ce recueil. Comment vous choisissez la voix et le statut? C'est pas le bon mot, mais le statut du personnage principal, et c'est toujours à la première personne d'ailleurs.
Je le choisis pas, en fait, il s'impose à moi. L'histoire de l'homosexuel, il n'y a qu'un homosexuel qui peut raconter cette histoire, puisque c'est une histoire...
sur Grindr.
Voilà, donc bon.
Sur un site de rencontre homosexuelle.
Et puis les femmes, vous parliez tout à l'heure de personnages qui se googlisent. En fait, c'est une femme. Là, c'est une femme, mais parce que c'est une femme qui m'a raconté ça.
Ah, d'accord.
En me disant, bah, tiens, je suis allé sur Google, j'ai trouvé ça un peu hard. Parce que... mais ça s'impose, en fait. Je ne fais pas vraiment. D'ailleurs.
Vous avez jamais modifié ensuite.
Pardon ?
Vous avez jamais modifié ensuite en vous disant, ah non, finalement, ça s'est
arrivé. Ah si, ça m'est arrivé une fois ou deux, mais parce que mon éditeur me l'avait proposé. En me disant, tu vois, là, je pense que ce serait... Parce qu'il y a des textes, pas tous, mais il y a des textes qui sont unisexes. Ça peut très bien marcher avec un homme comme une femme. Et je ne sais plus pour quelle raison, probablement pour une question d'équilibre entre les textes masculins et féminins. Il m'avait demandé d'en féminiser deux ou trois, enfin, je ne sais plus. Ça fonctionnait.
On arrive à la fin de cette rencontre, malheureusement, mais je voulais aussi préciser que vous avez une autre rencontre à l'Humeur Vagabonde. C'est dans le 18e arrondissement de Paris. C'est quand ?
C'est le vendredi 27 janvier, vendredi à 19h. Je fais une signature à la librairie L'Humeur Vagabonde. Ouais.
Et je vous encourage à rencontrer David Thomas et surtout à vous procurer ce magnifique recueil Par tous les autres. C'est aux éditions de l'Olivier. Merci beaucoup, David
Thomas. Merci à vous, merci.
À bientôt. Dans un instant, visite de bibliothèque, nous partons chez Clément Beaune.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue, il est l'heure de visiter des livres. Alors les politiques pour les visites de bibliothèque, c'est pas souvent. Pourtant je propose parfois, mais il est rare qu'ils soient d'accord. Peut-être qu'ils ont peur d'être piégés, je ne sais pas. C'est idiot d'ailleurs, je parle de littérature, moi il n'y a pas de piège. Enfin bref, le ministre des Transports lui a dit d'accord, venez voir. Nous partons donc chez Clément Beaune pour savoir de quel livre il se chauffe. Bonjour Clément Beaune.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez vous carrément.
Effectivement.
Alors, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise « Oui, c'est possible, mais la bibliothèque est dans des cartons parce qu'il y a eu un déménagement. » Puis en fait, quand j'arrive, la plupart des livres en fait, sont sortis ou alors les cartons sont dans la cave et il reste quelques livres dans le salon. Mais là, il y a carrément des cartons ouverts dans le salon, plein de cartons. Qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est vrai, bah, il s'est passé que j'ai emménagé il y a quelques mois. Enfin, maintenant, ça commence à dater un peu, il y a un an et demi, je pense, dans mon appartement, et alors on pourrait y voir un signe de désintérêt pour les livres, mais la seule chose qui est restée dans les cartons, ce sont les livres, et au contraire, c'est parce que je voudrais avoir une vraie belle bibliothèque, et je n'ai pas encore trouvé le temps de la faire, de la construire, donc du coup, pour l'instant, mes livres restent un peu en vrac, mais je me suis un peu habitué à ce rapport aux livres qui traînent d'une certaine façon, mais qui m'entourent.
Et avant, ils étaient où ? Ils étaient bien rangés, tous dans l'ordre, par ordre alphabétique et tout ?
Alors là, vous avez percé une obsession. Non, ils n'étaient pas rangés par ordre alphabétique. Je ne vais pas jusque-là. Je sais que ça arrive à quelques personnes amoureuses des livres. Mais non, ils étaient dans des bibliothèques différentes et ils étaient bien alignés. Ça, c'est ma petite obsession. C'est que,
ah, il faut de la même taille.
La tranche, voilà. D'accord. Ouais, exactement.
Mais c'est une...
Je ne vais pas jusqu'à l'ordre alphabétique.
C'est une chance à la fois d'avoir la possibilité de refaire sa bibliothèque, de ressortir les livres, de trier un peu, éventuellement d'en évacuer. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous ferez ?
Ouais, on en redécouvre. D'abord, en fouillant de temps en temps dans ces cartons ouverts, j'en redécouvre moi-même. Et je les garde beaucoup, évidemment, parce qu'ils ont tous une histoire. Il y a comme des strates. J'avais deux grands-parents, deux grands-pères qui étaient des collectionneurs de livres. Et donc, j'ai hérité d'eux des livres anciens, quelques livres anciens auxquels je tiens beaucoup, qui sont ceux-là un peu mieux rangés parce que j'en prends soin. Il y en a quelques-uns dans ma chambre, il y en a dans certains cartons encore. Et donc ça me rappelle plutôt la maison des grands-parents, l'histoire familiale. J'ai encore quelques livres d'étudiants qui sont plutôt des bouquins de boulot ou de sciences politiques, mais que j'ai gardés parce qu'ils correspondent à des moments, à des souvenirs. Et puis, il y a ceux que j'ai accumulés moi-même, voilà, à la fois le livre de poche qu'on emmène en vacances et qu'on se fait recommander ou qu'un copain vous prête et que vous gardez, ou des livres un peu plus jolis, si je puis dire, que je relis régulièrement.
Vous lisez quand ? Dans les transports ?
Non, je lis essentiellement le soir. Et comme je l'avoue avoir un peu moins de temps en ce moment, et que ça me chagrine de ne pas avoir ce moment de lecture, je me suis remis à la poésie depuis quelques mois. Et c'est plus facile, même quand on a un coup de fatigue et qu'on ne veut pas se lancer dans un roman ou dans un essai, de lire quelques poèmes. Et ça permet déjà de changer un peu les idées, d'évacuer et de le faire en assez peu de temps, de changer d'univers vite.
Ne me dites pas que vous composez de la poésie aussi.
Ah non, je ne vous ferai pas croire ça, c'est pas vrai.
Muriel Pénicaud, dont on a visité la bibliothèque, écrit des poèmes.
Ah bah ça, vous me l'apprenez. Non, je ne fais qu'en lire. Mais il y a un petit lien politique parce que je crois que le premier livre de poésie qu'on m'a offert, c'était mon père quand j'étais jeune, qui pourtant n'était pas exactement sur cette ligne politique, mais m'a offert une anthologie de la poésie française de Georges Pompidou, qui est très belle.
Oui, oui, mais qui est référence en plus.
Référence, exactement. Et donc, j'ai celle de Gide et celle de Pompidou. Donc,
mais ils sont où, les livres de poésie ?
Alors, ils sont sur ma table de chevet.
Ah, on peut
oui,
regarder.
Oui, on peut regarder.
Incroyable.
Ils sont sur ma table de chevet, parce que justement, c'est ce que je lis le plus fréquemment en ce moment, donc je ne sais plus
dans
quel ordre. On entre
dans une toute petite chambre, il y a juste une table de chevet.
Exactement, il y a quelques bouquins auxquels je tiens.
Voilà Pompidou, tiens.
Et voilà, il y a l'anthologie de Pompidou, Il y a quelques, il y a un petit bouquin de Thomas Bernard que j'ai lu cet été, que j'ai laissé là. Et puis, il doit y avoir quelque part...
Il y a le dernier Laurent Godet aussi.
Il y a le dernier Laurent Godet, voilà. Vous avez,
Anthologie de la poésie française d'André Gide. Vous ouvrez au hasard ou vous cherchez des poèmes que vous lisez quasiment tout le temps?
Non, justement, j'ouvre au hasard. Et j'essaie de découvrir des poésies, voire des poètes que je ne connais pas ou pas bien. Et puis, il y en a un que je relis souvent... qui est Liberté d'Éluard. Et il y a deux Éluards, si je puis dire, que j'aime beaucoup retrouver. C'est Liberté en le lisant dans l'anthologie de Pompidou. Et puis il y a la petite vidéo, mais que je me repasse de temps en temps, c'est cette fameuse conférence de presse du président Pompidou où il cite Éluard à propos de l'affaire de Gabriel Caussier. Et c'est assez émouvant de voir le président de la République en conférence de presse conclure par une poésie d'Éluard.
Et alors, c'est quand même... C'est presque trop beau pour être vrai, c'est-à-dire que je vais visiter les bibliothèques des gens pour dessiner aussi un portrait en creux. Et vous me parlez de poésie avec l'anthologie de Pompidou, c'est incroyable.
Oui, bah, comme quoi on n'est jamais...
Qui a précédé l'autre, en fait c'est...
Ah non, je pense qu'il y a peut-être un petit lien dans mon enfance. J'ai toujours été bercé par l'actualité, et puis je me suis intéressé à la politique. Et c'était assez amusant que mon père, qui avait été un militant socialiste, me passe du Pompidou pour apprendre la poésie quand j'étais gamin, donc j'ai gardé cette... On va dire que c'est une forme d'ouverture.
Je cherche...
Il y a quelqu'un que j'ai corné, que j'ai bien aimé.
En fait. Ouais, voilà. C'est corné. Jean-Baptiste Rousseau.
Ouais.
C'est l'aude tirée du cantique.
D'Ézéchias. Sinon, hop. Il y en a un que j'ai lu récemment, que je vais essayer de retrouver.
Ah, Verlaine. Vous cornez les pages, mais tout doucement.
Ouais, je veux pas l'abîmer. Exactement, c'est pas j'ai ce côté respectueux du bouquin. Je veux pas l'abîmer.
Et c'est 3 mm qui sont cornés.
Oui, c'est un peu ça. Je le fais quand il y a des passages qui me plaisent beaucoup. Ah oui, c'est celui-là que j'ai lu récemment qui est très beau. J'ai vu mes tristes journées décliner vers leur penchant. Au midi de mes années, je touchais à mon couchant. La mort déployant ses ailes couvrait d'ombres éternelles la clarté dont je jouis. Dans cette nuit funeste, je cherchais en vain le reste de mes jours évanouis. C'est plus gai après, je vous rassure. Mais c'est très beau.
Jean-Baptiste Rousseau. Exactement. Pas très connu, en fait.
Non, mais justement, il y a beaucoup d'élégance. On dit que l'anthologie de Pompidou est assez classique, mais il y a quand même un certain nombre d'auteurs et de choix très personnels et un grand éclectisme, en réalité, y compris des auteurs dont on pouvait imaginer que ce n'était pas forcément la tasse de thé politique de Pompidou, beaucoup d'Apollinaire, même Éluard, qu'il aimait profondément.
Ah, vous avez le dictionnaire de l'inutile de François Morel et son fils,
ouais.
Qui est aussi une forme de poésie, finalement.
Oui, exactement.
C'est la poésie de François Morel.
Ça, c'est un bouquin qu'on m'a offert. Qu'est-ce qu'on a dans les plus proches? Il y a quelques bouquins de...
Il y a des Pléiades, ici.
Il y a quelques Pléiades.
C'est... Roger Martin Dugard.
Exactement, qui sont à chaque fois des cadeaux. Pour moi, j'associe...
Albert Cohen.
J'ai un côté fils de prof, donc pour moi, la Pléiade, c'était le beau cadeau qu'on vous faisait quand il y avait un événement. Donc, je les ai gardés.
Vous avez beaucoup d'Albert Cohen aussi. Il y a
beaucoup.
La Belle du Seigneur, il y a le livre de ma mère.
Exactement, ça c'est des bouquins que j'ai lus quand j'étais ado et étudiant.
Et ceux-là, là, il y a tous des grands formats de livres anciens.
Oui, ça justement, c'est les livres que j'ai hérités de mon grand-père maternel, en l'occurrence, qui aimait énormément l'histoire, qui aimait les grands classiques, si je puis dire. Et donc, il a des anthologies où il a des œuvres complètes de beaucoup d'auteurs, de Bossuet, notamment, en théâtre de Racine. On doit avoir juste au-dessus La vie et l'œuvre de Metternich.
Ouais.
Et puis un Napoléon de Bainville, assez conservateur, hein, c'est du Bainville, mais qui est un très beau bouquin d'histoire.
Magnifique. Pour en revenir à la poésie, est-ce que vous voyez la vie, y compris dans un ministère, avec ce prisme poétique? Est-ce que vous transformez un peu la réalité à laquelle vous êtes confronté en quelque chose d'autre, quoi?
En poésie, ce serait beaucoup dire, parce que j'ai peut-être un côté trop rationnel, mais j'essaye justement de garder ce contact avec la littérature et beaucoup avec l'histoire. J'ai beaucoup de bouquins qui ont un arrière-plan historique pour partir de la réalité, aller vers l'imagination. J'essaye d'élargir un peu, et puis ça nourrit, sinon on n'a pas d'idées. Donc j'essaye d'avoir des moments qui vous donnent des idées.
On est de retour dans le salon. Il y a une petite table ronde, et vous avez posé dessus un livre grand format, livre ancien encore.
Ouais, parce qu'il y a deux livres anciens, un tout petit, un très grand, voilà, qui sont deux, un qui s'appelle une géographie et l'autre qui est vraiment un atlas et que j'aime beaucoup. Là aussi, ils me viennent de mon grand-père, c'est le livre auquel il tenait le plus.
Je n'ose pas le toucher.
Oui, il est très fragile. Il date de la fin du 18e. Et c'est une géographie moderne avec des cartes magnifiques qui sont faites encore colorées à la main.
Et, tout.
Et avec des commentaires, alors avec aussi le prisme de l'époque. Donc évidemment, une forme de gloire nationale européenne totalement assumée, totalement nationaliste, même si on est un peu avant le 19e. Mais des cartes très très belles avec... la France minéralogique, et puis on a des choses incroyables sur les découpages administratifs qu'on comprend mieux sur les cours, les parlements, les facultés, voilà, la France divisée, le Parlement de Paris, le Parlement de Toulouse, des choses d'ailleurs dont on retrouve encore des empreintes aujourd'hui dans notre territoire. Donc c'est à la fois une leçon politique, mais aussi un moment un peu de rêve. Et puis une petite géographie
qui de, date poche.
De poche, qui date de 1837, je crois, avec le nom de mon grand-père qu'il avait acheté d'occasion. Et des cartes qui se déplient, qui sont très belles aussi, à l'encre. Et alors là, c'est vraiment la vision 19e, c'est très précis, très scientifique, en détail, chaque
mais
région.
Vous l'avez lu ? Alors,
je l'ai feuilleté, mais c'est pour l'objet. Alors, c'est pas un bouquin que vous lisez comme un roman,
c'est pas très confortable,
mais c'est un bel objet. Et puis, c'est amusant de voir cette espèce de rapport au monde un peu fasciné, là aussi, alors pour le coup, avec l'idée d'une supériorité. Européenne et les propos totalement scandaleux aujourd'hui, mais qui sont justement intéressants pour comprendre l'époque et puis qui sont voilà, cette espèce de vision méthodique des choses qui est assez impressionnante. Voilà, donc, et puis j'aime beaucoup ces petites cartes qui sont. Imaginez le travail au 19e quand on faisait encore beaucoup de choses à la main, évidemment, d'avoir ces atlas avec des cartes d'Amérique et d'Afrique très précises.
Bon, on plonge dans les cartons. Effectivement, tout à l'heure vous l'avez dit, mais il y a beaucoup de livres. De Sciences Po,
il y a quelques-uns qui émergent
encore.
Il y a
du René Raymond, il y a du
ouais,
Pierre
Manon,
du Hannah Arendt. Mais justement, c'est ma question avant d'aller dans ce qui compte réellement, c'est-à-dire les romans. Est-ce que ce sont des livres, ces livres de sciences politiques, que vous relisez dans l'exercice de vos fonctions, ou alors c'est vraiment de la théorie que vous avez déjà bien en tête et que...
Non, je ne lis plus, pour être honnête, j'ai beaucoup aimé tout ça, ça a été ma formation d'étudiant, mais je ne les lis plus. Paix à son âme, mais je lis pas du René Raymond le soir. En revanche, il y a quelques bouquins qui sont souvent à la frontière de l'histoire des idées, de l'histoire tout court, que j'aime beaucoup refeuilleter. Je pense à un petit bouquin de Vinocq qui s'appelle Parlez-moi de la France.
Michel Vinocq, le grand historien.
Qui est un bouquin extraordinaire, un petit essai très court sur la France. Voilà, la passion de l'égalité, la gauche et la droite, des choses comme ça. Un bouquin qui est aussi un cadeau de mes parents, qui s'appelle Saint-Germain ou la négociation. Quelle histoire réelle, un petit peu romancée, d'une grande négociation historique, diplomatique, européenne, sur fond de tensions religieuses, qui est très, très beau. Et puis,
Voilà. Quel roman, là, je vois. Il y a Nicolas Bouvier aux éditions Quarto, qui sont les éditions qui rassemblent comme ça l'essentiel de l'œuvre d'un écrivain. Nicolas Bouvier, c'est le voyage,
exactement.
C'est une vision du monde très particulière. Qu'est-ce qui vous plaît chez Nicolas Bouvier ?
Et ben, je l'ai découvert en allant faire un voyage avec des copains quand j'étais étudiant, les Balkans. Il a notamment un
c'est la meilleure manière de le découvrir.
Ouais, exactement. Et donc, je l'ai lu, c'est très cliché, mais sur le trajet du voyage.
Mais vous l'avez acheté en disant, bon tiens, j'ai un voyage à faire dans les transports, je vais pouvoir lire ou...
Ouais, exactement, je crois que c'était un des amis qui m'accompagnait, qui m'a fait découvrir, qui m'a dit voilà, lis ça, c'est formidable. Et...
Oh, il y a un vieux Balzac, ouais. Le médecin de campagne.
Exactement, ça fait partie.
Vous aimez les classiques aussi en roman ?
Oui, j'aime bien. Je ne suis pas un immense lecteur de Balzac, faut être honnête. Enfin, j'aime beaucoup Steinbeck, là, vous êtes tombé sur
Des souris et des hommes. Une vieille version Gallimard, waouh. Et avec la fin incroyable, donc on ne racontera pas, mais qui est très, très émouvante. Moi, je le relis chaque année, Des souris et des hommes.
Ouais.
Et j'arrive à le lire en VO, parce qu'il est court.
Là, vous êtes fort.
Mais non, mais c'est important, parce que d'ailleurs, il a été retraduit, je vous conseille, parce que, toujours chez Gallimard, mais retraduit, parce que c'est un langage très parlé, et à l'époque, la traduction était plutôt académique, alors qu'il parle comme des types qui travaillent dans des fermes, avec c'est un langage un peu châtié. Et puis il y a des yo, yeah et tout ça.
C'est vrai.
Et c'est intéressant pour ça aussi. Vous lisez des romans depuis toujours ou c'est venu après les études ou pendant les études ou plus tard ?
C'est venu assez tard parce que quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à lire, comme beaucoup d'ailleurs, les livres qu'on vous donne au lycée, à l'école. Et beaucoup de. Après, quand j'étais étudiant, c'est pour ça que vous retombez encore pas mal sur les bouquins d'histoire ou de sciences politiques, beaucoup d'histoire, beaucoup d'essais. Et je me suis mis au roman comme une forme de de respiration un peu plus tard. Mm-hmm. Enfin, y a un bouquin que vous ne devez pas trouver, mais que j'aime énormément. Et
voilà, je
c'est, Jonathan,
tout, hein.
C'est Jonathan Coe.
Ah, Jonathan Coe.
Ça, c'est vraiment l'auteur.
Lequel en particulier ?
Ah, le préféré, dans les tout récents, je crois que ça s'appelle « La pluie avant qu'elle tombe ».
Oui.
Dans la version française. Je l'ai lu en français. Hein. Et celui, je crois que le premier que j'ai lu, c'est « Le cercle fermé ». Et c'est des sagas comme ça, familiales, parfois sur plusieurs décennies, très drôles, et avec un génie de la caricature de l'époque, mais beaucoup d'humour, etc. Et c'est probablement le meilleur auteur capable de décrire l'esprit anglais depuis les années 60-70. Voilà. D'ailleurs, c'est un grand ami de la France. J'ai eu la chance de le rencontrer une fois.
C'est ce que j'allais vous demander.
Ouais, j'ai eu la chance de le rencontrer une fois complètement par hasard, après le Brexit, où il disait mais il faut faire quelque chose, il faut vous aider, etc. Et il est extrêmement drôle. Il a écrit un de ses derniers bouquins justement sur cette Angleterre,
Brexit, ouais.
Voilà, le cœur de l'Angleterre, je crois.
Ouais.
Exactement. Et tout est ça pour le coup, c'est le seul auteur, je crois, dont je vais acheter le bouquin dans l'heure qui suit la publication.
Et il en sort un nouveau là très récemment, qui est la suite en fait, plus ou moins, de Cœur de l'Angleterre.
Pas encore lu, donc ça sera le régal de Noël.
Je crois qu'il vient en France pour en parler d'ailleurs, si vous voulez sauter sur l'occasion.
Eh ben, on va essayer. Il est super. C'est vraiment un auteur que je recommande.
Mais quand même, on arrive toujours à faire un lien entre littérature et politique.
Hein, parce que j'avoue que j'aime bien quand il y a un fond d'actualité, de société.
Justement, en disant ça, je vous tombe sur Éric Vuillard,
ouais,
qui a été pris Goncourt pour L'Ordre du jour, que j'ai dans la main chez Actes Sud, qui est un tout petit livre. Et vous avez un autre Éric Vuillard à côté, La guerre des pauvres. Alors, c'est un auteur que vous appréciez.
Un auteur que j'apprécie beaucoup. Je l'ai découvert peut-être comme... pas mal de gens au moment du Goncourt. J'ai commencé par L'Ordre du jour, même si je sais qu'il avait écrit des choses très belles avant. Et je suis tombé un peu par hasard, chez un libraire d'ailleurs, sur où est-ce qu'il est passé, La guerre des pauvres, qui était dans le coin, voilà, qui est un petit bouquin chez Actes Sud, et qui est très beau, qui pour le coup est très différent. Ça se passe au Moyen-Âge. Et c'est un bouquin assez violent, mais très très joli.
Bon, il y a du
temps. Encore l'histoire, mais ça, c'est parce qu'ils sont. C'est pas parce qu'ils sont au-dessus qu'ils sont les plus.
Révolution d'Emmanuel Macron.
Ouais, ça,
mais justement, vous c'était pensez quoi exprès. Est-ce que vous lisez les livres des hommes politiques?
Honnêtement, non.
Est-ce que vous avez la volonté d'en écrire un d'ailleurs?
J'aimerais bien écrire un jour. J'écris de temps en temps des petites choses, mais j'ai jamais eu la patience ou la capacité d'écrire de longs textes.
Vous écrivez quoi, des manifestes ou des?
Non, j'écris
de la fiction. Quoi, de la fiction?
Eh bien non, je vais vous décevoir. J'écris des trucs un peu de réflexion et je m'essaie à une espèce de littérature d'actualité, mais ce n'est pas encore terrible, il faut être honnête. Donc je ne suis pas sûr que ça aboutisse un jour.
Qu'est-ce que vous appelez la littérature d'actualité?
À partir de quelque chose qui se passe, des choses qui sont là aussi, un peu comme Co d'ailleurs, avec évidemment pas le talent.
Ah oui, d'accord.
Mais quelque chose qui se passe aujourd'hui, qui a un arrière-plan avec des choses qu'on connaît, des événements politiques, mais ça, franchement, ça n'a jamais été très abouti. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ulysse.
Oh, Ulysse. Alors ça, Ulysse...
Ça, je ne l'ai pas fini.
Bah voilà. C'est ce que j'allais dire. Je le trouve dans quasiment toutes les bibliothèques. Et à chaque fois, on me dit, j'ai essayé, je n'ai pas fini. Ce que je rappelle, c'est une sorte de flux de conscience où les pensées du narrateur se mêlent. C'est vrai que ce n'est pas le plus évident à lire. Et puis en plus, c'est un sacré pavé. Quoi. Il fait bien 1000 pages.
J'ai habité en Irlande et donc j'avais acheté quelques bouquins de Joyce en me disant que j'allais m'y mettre. Et Ulysse, j'avoue, je n'ai pas réussi. Et il a écrit en revanche Joyce un bouquin plus accessible qui s'appelle Dubliners, et qui est génial sur aussi l'Irlande début 20e, tout son foisonnement artistique et plein d'histoires un peu folles. C'est plutôt des nouvelles, c'est super.
Vous habitez en Irlande pour les études?
J'ai fait un an d'études à Dublin, effectivement. Ouais.
Merci beaucoup Clément Beaune.
Merci à vous.
Merci pour cette visite.
Merci
beaucoup. À bientôt et bon courage.
Au revoir.
Et merci à Clément Beaune. Dans un instant, encore des livres.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est livre.
Nicolas Carreau.
Dernier chapitre, épilogue de La Voix est livre avec Sébastien Bordenave pour la bande dessinée, Héloïse Goua, littérature jeunesse, et notre libraire de la semaine, Amandine Cole. Pardon, la géniale Amandine Cole.
au moins.
Librairie de Paris, à Paris. Place de Clichy. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Bien, commence avec vous, Amandine. Tiens, un roman.
Un roman qui s'appelle Une archive.
Pas vraiment un roman d'ailleurs.
Si. C'est un récit.
On peut appeler ça un roman, après tout, pourquoi pas. Donc, ça s'appelle Une archive et c'est signé Mathieu Lindon aux éditions POL. Et Mathieu Lindon, c'est quelqu'un qu'on connaît pour ses articles sur les livres, puisqu'il est tout à fait comme vous, journaliste littéraire.
Trop d'honneur. C'est aussi un romancier d'ailleurs.
Et c'est aussi un romancier qui a beaucoup écrit sur les autres, et notamment sur sa très grande amitié avec Hervé Guibert dans un livre qui s'appelle Hervelino. Et donc là, ce livre, il commence par une réflexion particulière, parce que ce livre, il est sur son père, qui s'appelle Jérôme Lindon, que tout le monde connaît pour avoir été le grand éditeur des éditions de Minuit pendant pratiquement 40 ans. Alors on pense souvent qu'il les a fondés, mais ce n'est pas le cas. Il est arrivé après la guerre, parce que les éditions de Minuit étaient fondées dans le cadre de la résistance. Voilà. Mais lorsqu'il est arrivé, il s'est passé quelque chose, et c'est ça qu'il raconte. Et lui, en étant son fils et en le connaissant à la fois comme homme public et homme privé, il s'est longtemps posé la question, et notamment de ce qu'il devait dire. Et lorsque un autre écrivain avait voulu écrire ce livre et qu'on lui avait dit qu'il n'aurait pas accès aux archives et aux lettres notamment, lui s'est rendu compte que c'est quelque chose dont il n'avait pas besoin. Et il a cette phrase absolument géniale, il dit « Je suis une archive à moi tout seul ». Et comment est-ce qu'on raconte cet homme qui était à la fois complexe, passionnant, intéressant, qui avait pour ambition de découvrir une génération de romanciers et qui finalement en a découvert beaucoup plus que ça? C'est par petites touches et notamment au travers de ses très grandes amitiés. Et l'une des plus belles amitiés dont on parle tout au long du livre, c'est celle avec quelqu'un qu'on appelle d'abord Sam.
Sam Beckett.
Exactement, Samuel Beckett. Et cette relation avec là était très particulière et il a créé quelque chose qui était vraiment de l'ordre de la confiance. Et quand on parle de récit et de personnage, outre le personnage dans sa complexité, dans sa gentillesse ou dans ses engagements, dans ses fâcheries aussi qui pouvaient être assez énormes, moi ce que j'aime énormément c'est qu'on nous raconte aussi en creux toute une époque. Et ce qu'il raconte c'est une époque particulière de l'édition, avec une vision d'un homme, avec quelque chose qu'on appelle les maisons d'édition. Et lorsqu'on dit une maison, ça paraît anodin, mais non, il y a vraiment cette idée de maison. Et en creux, puisque Mathieu Lindon aime beaucoup évoquer les autres, il y a un côté un peu point cardinal, il évoque aussi une autre personnalité importante de sa vie, qui est son éditeur, Paul Tchaïkovski-Laurence, qui est mort assez tragiquement il y a quelques années. Et ça lui permet aussi de parler par touche de toute cette vie, de tout ce qu'elle est. Et ce récit est absolument touchant, émouvant, formidable. Par petites touches comme ça qui permettent de savoir des choses. Et lorsqu'on le quitte, on a l'impression d'avoir appris des choses.
Et POL, c'est un peu une maison sœur justement des éditions de Minuit. Il y a comme ça un voisinage.
Il y a quelque chose, oui.
Une cousine, disons. Héloïse Goy.
Oui.
Rien à voir, littérature jeunesse avec vous.
Et oui, est-ce que vous avez des souvenirs de moments d'ennui pendant votre enfance, vous, autour de la table? C'était des bons moments?
Pas tellement sur
c'est,
le
c'est
coup.
C'est des moments après, propices à l'imagination.
Bonne réponse, Sébastien Bordenave.
C'est fertile.
L'ennui, c'est ce que célèbre le livre dont je vous parle aujourd'hui, qui s'appelle L'ennui des après-midi sans fin. L'album est illustré par Hippolyte et il est signé par l'écrivain, compositeur, interprète que vous connaissez notamment pour cette chanson.
Plonge-moi dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Gaël Faye.
Absolument, vous avez reconnu Gaël Faye et sa chanson Petit pays qui est aussi le roman qui l'a fait connaître dans le monde entier. C'est donc cette fois aux enfants qu'il s'adresse avec ce livre. C'est une réédition ce livre, mais je vous le fais découvrir parce qu'il est magnifique. Gaël Faye a grandi au Burundi, c'est à 13 ans qu'il arrive en France. Et quand il était petit garçon, il n'avait pas école l'après-midi. Et c'est dans sa maison en briques rouges où il n'y a pas de télé ni autre écran, où il n'y a, je cite, pas de 4 heures, pas de goûter, pas de pâte à tartiner. C'est là, dans cette maison où il vit avec son père et sa petite sœur, qu'il a appris les bienfaits miraculeux de l'ennui. S'ennuyer, c'était par exemple l'occasion pour lui d'observer les oiseaux dans la volière, les poissons dans l'aquarium, les reptiles aux quatre coins du grand jardin, les rayons
c'est
de soleil.
De
bah, observer.
Quand t'as des reptiles à observer.
Oui, bah, tout dépend de votre enfance, mais il restait dans le calme. C'était aussi l'occasion pour lui d'écouter la radio qui grésille et puis surtout d'apprivoiser le silence pour mieux fabriquer ses rêves. C'est un peu ce que vous disiez, Sébastien. Comme dans ses chansons, et c'est ce qui est magnifique dans ce livre jeunesse, la plume de Gaël Faye est follement poétique et imagée. Écoutez par exemple, je cite « Petit garçon, genoux cagneux, il fait trop chaud sous mes cheveux. Nos jeux sont souvent poussiéreux sous un soleil de plomb teigneux. » Fin de citation. C'est joli, non ? Les illustrations d'Hippolyte défilent comme un diaporama d'images pour raconter ses souvenirs d'enfance. C'est doux, c'est nostalgique. Ce qui est très chouette aussi, c'est qu'un QR code à la toute fin du livre vous donne accès au texte du livre en musique. C'est évidemment slamé par Gaël Faye et ça donne ça.
Dans le ventre de la maison, les adultes en digestion et moi coincé dans mes questions, prisonnier d'une toile au plafond. Torpeur d'après-midi, sous un ciel bleu paradis. Parade levée dans le taillis, 14 juillet chez les fourmis.
Je finis avec une toute dernière phrase de Gaël Faye qu'on trouve à la fin de l'ouvrage. Je garde de ces jours immobiles le souvenir d'une période enchantée où j'ai pu remplir à ras-bord le coffre-fort de mon imaginaire.
Parfait, vous nous redonnez le titre du livre.
Louise. L'ennui des après-midi sans fin de Gaël Faye et Hippolyte, c'est aux éditions Les Arènes.
Merci beaucoup Héloïse Goy et Sébastien Bordenave. On termine avec vous. Et la bande dessinée.
Et bah deux BD, deux salles, deux ambiances. On commence par un manga qui s'appelle Sanctuary, publié chez Glénat. Le dessinateur, c'est Ryuichi Ikegami, 78 ans. Oui, exactement. Du sud. Toujours en 78 ans, hein, le monsieur, toujours en activité. Le festival d'Angoulême, qui commence ce jeudi, consacre même une expo de 300 planches originales à ce monsieur. Sa spécialité, les mangas qui se passent dans la pègre japonaise. Il adore dessiner des histoires de Yakuza. Il a commencé à 17 ans en illustrant des affiches de cinéma. Et c'est vrai que quand on lit ce manga Sanctuary, il y a un peu le côté faussement désuet, un peu roman photo, un peu vieux film de genre asiatique et c'est sublime. Le scénario, on le doit à Buronzon. C'est le scénariste de Ken le Survivant. Les amateurs apprécieront. Ah ouais, Ken le Survivant. Buronzon, lui aussi, il a dépassé les 75 ans. Il a été surnommé Buronzon parce que japonais, il ressemble néanmoins à Charles Bronson. Alors, j'ai vérifié sur Google Images si lui ressemble à Charles Bronson. Moi, je ressemble à Bruce Willis. Et à propos, et à propos de Bruce Willis... oui, voilà.
Il y a un truc, hein.
Et à propos de Bruce Willis, et bah dans le film du cinquième élément... Le héros sur sa table de chevet, eh ben il a un exemplaire de ce manga, Sanctuary, la boucle est bouclée. C'est une réédition. Si vous ne connaissez pas, c'est le moment. C'est en 6 tomes et c'est pour qui aime les polars, attention, avec des yakuza dedans, c'est franchement culte, ça s'appelle Sanctuary.
Parfait.
Deuxième BD, changement total d'ambiance, c'est de la douceur, de l'émotion, de l'humanité. C'est un roman graphique dans le sens où je l'entends, à savoir... Eh ben, l'histoire d'une vie, celle de Jennifer, on l'accompagne de sa naissance à aujourd'hui. C'est un roman autobiographique par le prisme de ses seins. Le titre original, c'est « The Story of My Tits », en français, publié chez La Cité Graphique. Ça donne « Néné Chérie ».
Comme la chanteuse ?
Eh oui, ouais, exactement, « Néné Chérie ». Ça s'écrit pas pareil, mais c'est ça. Le style est direct, sans chichi, avec beaucoup d'humour et fausse naïveté. Le dessin est un peu enfantin, mais très attachant. Elle raconte comment, très jeune, elle se morfond de ne pas en avoir. Elle est d'autant plus déçue qu'à cause des playboys que laisse traîner son père sur la table basse du salon, elle comprend vite que cette partie du corps a son importance, surtout pour les autres, pour ne pas dire surtout pour les hommes. Et les hommes, ils vont être très présents dans son histoire personnelle, son père infidèle, ses premiers amours, le dernier, puis la famille, les parents, les enfants et son cancer du sein, exactement le même que celui de sa mère. C'est super émouvant de voir défiler en BD une vie en 350 pages de dessin à la fois pudique et qui en raconte beaucoup. La BD a été élue meilleur roman graphique selon le New York Times et c'est très mérité. Ça s'appelle Néné Chérie de Jennifer Hayden, H-A-Y-D-E-N.
Parfait, une petite citation peut-être.
Allez, une citation BD, elle est de Hugo Pratt, dans la bouche du héros marin Corto Maltese. Alors je ne sais pas si c'est une citation jolie ou machiste. Corto dit « Les femmes seraient merveilleuses si on pouvait tomber dans leurs bras sans tomber dans leurs mains. »
Pas mal, mais bon, c'est vrai que quand ça commence par « les femmes sont »
Les femmes sont » en général.
C'est jamais
c'est toujours une généralité. Héloïse, on rappelle le titre.
L'ennui des après-midi sans fin aux éditions Les Arènes de Gaël Faye et Hippolyte.
Et Amandine.
Une archive de Mathieu Lindon aux éditions POL.
Parfait, merci à tous les trois. Amandine Cole, je rappelle, librairie de Paris, c'est à Paris, place de Clichy. Notre invité, c'était David Thomas. Tout à l'heure, je redonne le titre du livre, Partout les autres, une merveille, aux éditions de l'Olivier. Merci beaucoup. Une merveille, c'était pas dans le titre, hein, c'est moi qui le dis. Merci beaucoup à Agnès Vaudin pour la préparation de cette émission, Grégory Delpech pour la programmation musicale et à la réalisation, Boris Paczynski. Bien entendu, l'homme aux doigts de fée, dans un instant, Didier Barbelivien. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.